de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. Cinérama, c'est souvent des jeux, on s'amuse à faire des blind tests où on écoute des réalisateurs, des acteurs, des actrices. Et aujourd'hui, c'est une réalisatrice, Sophia.
Oui, on va écouter Eliane Delatour, que j'ai eu la chance d'interviewer pour la sortie de son documentaire Animus Femina.
Et puis toi, Guillaume, deux films.
Oui, deux villes en feu, puisque c'est Palestine 36 et la ressortie de City on Fire de Ringo Lam.
Et puis moi, je vous parlerai alors de quatre films quand même, alors très rapidement des Courageux et de Sans Pitié, qui sont deux premiers films. Je vous parlerai aussi de Fursi, Né Libre. Et puis nous allons commencer tout de même avec Father, Mother, Sister, Brother, Lion d'Or à Venise. C'est le dernier film de Jim Jarmusch.
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma.
Cinérama.
Nous en parlerons tout à l'heure.
Jim Jarmusch est un cinéaste dont la patte est reconnaissable, que ce soit par les acteurs récurrents, les histoires et les lieux, ce qui se dit, le rapport à la musique ou la grammaire cinématographique. Le cinéaste a plusieurs tics de réalisation. Il aime bien les segments. Alors, on se souvient des 5 trajets en taxi de Night on Earth, des 3 récits de Mystery Train ou des 11 courts-métrages de Coffee and Cigarettes. Et voilà que dans Father, Mother, Sister, Brothers, ce sont 3 récits qui nous sont dévoilés dans 3 lieux distincts. Alors, il y a d'abord les États-Unis avec un frère, Adam Driver, au volant et sa sœur, Sarah Green, qui vont rendre visite à leur père qu'ils ne voient pas souvent. On a juste eu le temps de voir qu'il est interprété par Tom Waits qui cherche à mettre un peu le bazar chez lui. Curieuse manière de recevoir. À écouter les enfants, il est en marge, a des difficultés d'argent, mais bon, on ne choisit pas sa famille. Hein. La formule sort à plusieurs reprises. Quand les voilà tous les 3 ensemble, ils ne se disent pas grand-chose, boivent un coup d'eau et n'ont que ça pour trinquer, ce qui surprend d'ailleurs le personnage d'Adam Driver qui se demande si on peut trinquer avec de l'eau. Ce segment est d'une délicatesse savoureuse, hein. Il fait entendre le silence, la gêne, l'embarras, le remplissage et aussi ce qu'il reste d'amour et de considération dans une famille, il faut bien l'avouer, désunie. C'est drôle, à un certain point, un twist final nous éclaire encore davantage sur cette famille.
In the cool of the evening, when everything is getting kinda groovy, you call me up and ask me would I like to go with you and see a movie.
La musique est toujours importante hein, dans les films de Jim Jarmusch et vous entendez combien il est ici délicate. Dans le deuxième segment, direction l'Irlande, là c'est autre chose hein, qui nous attend. Au bordel répond une table impeccable avec petits gâteaux, service à thé, bouquet de fleurs installé par Charlotte Rampling qui a l'habitude de recevoir, comme chaque année, ses deux filles pour prendre un thé, non sans passer un coup de téléphone à sa psy avant. Là encore, quand tout le monde est réuni, il y a l'embarras, le silence, le temps qui passe, mais toujours cette politesse pour la famille. Savoureux, encore une fois, d'autant que Jarmusch s'est amusé à mettre des éléments récurrents dans les deux récits. Il y a le fait de trinquer. Un coup, c'est avec un verre d'eau et là, bien, c'est avec du thé. Il y a un des personnages qui a une Rolex. Ce détail laisse penser que les ouvertures vers le mensonge, les non-dits, qui est apparu dans le premier segment, se retrouvent aussi dans le deuxième. Il y a aussi, alors, cette expression « Bob est ton oncle », que je ne connaissais pas, qui revient, soulignant que le résultat est garanti ou évident. C'est une grille de lecture qui nous éclaire sur tous les personnages et ce qui les relie.
« Love is kinda crazy with a spooky little boy like you. » Spooky. If you decide someday to stop this little game that you were playing.
Le troisième segment est à Paris et il réunit un frère et une sœur qui retournent dans l'appartement de leurs parents qui ont mystérieusement disparu. Alors tous les segments s'ouvrent de la même manière avec une séquence en voiture avant que les personnages ne soient attablés. La voiture est un thème donc récurrent hein, chez Jarmusch qui aime bien aussi faire marcher ses personnages. Le troisième segment est bien sûr d'une autre saveur car il concerne 2 personnes et plus 3. Les parents absents n'existent qu'au travers de photos et d'une histoire inventée ou non que fournissent les enfants, pas tout à fait sûrs que leurs parents d'ailleurs leur aient tout dit. Tout le plaisir de ce film se fait effet dans les répétitions et glissements, à l'aspect statique des histoires qui nous sont racontées, les deux visites imposées chez le père et la mère, la mort des parents, s'oppose bien des jeunes que l'on voit faire du skate à l'ouverture de chaque séquence, comme une liberté de mouvement qui n'apparaît pas dans les relations filiales. Avec les similitudes, les différences, les incongruités, les moments de drôlerie, penchant plutôt vers Beckett, le spectateur reste attentif, bercé par des plans fixes, quelques travelling, une musique qui l'accompagne. Ce Jarmusch, alors quand même de quoi surprendre tant il ne repose sur aucune évidence autre que celle de la mise en scène. Ce film est évidemment en salle et donc, je répète, il a remporté le Lion d'Or à Venise, peut-être avec une certaine surprise, mais peut-être qu'il n'y avait pas grand-chose en face pour jouer le nombre. Palestine 36 suit des destins pris dans les tensions de la Palestine sous mandat britannique. Nous en parlons maintenant.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
En 1936, alors que des villages palestiniens se révoltent contre la domination coloniale britannique, Youssouf fait la navette entre Jérusalem et sa maison rurale, au milieu d'une agitation croissante et d'un moment charnière pour l'Empire britannique. Alors Youssouf, c'est un jeune villageois qui trouve un emploi à Jérusalem auprès d'un rédacteur en chef de journal centriste libéral, ouvert au monde et prêt à faire des compromis. Notre jeune héros n'est pas particulièrement politisé, mais va être inévitablement radicalisé par la brutalité des Britanniques. Alors au-delà de ce point d'accroche personnifié, comme toute bonne fresque historique, le film met en scène une multitude de personnages répartissant notre vision des événements et leur compréhension entre leurs destinées différentes et toutes tragiques.
The relationship between us and our land, that's a work of thousands of years.
L'année 1936 marque le début de la grande révolte arabe contre la colonisation britannique. C'est au cours de cette même année que la lutte nationale pour l'indépendance a éclaté avec toute sa force, façonnant les vies des Palestiniens et leur histoire pour les décennies à venir. Alors il est sûr que le film d'Anne-Marie Yajassir sort dans un contexte particulier, la guerre en Palestine ayant rarement été aussi vive. Le tournage du film a d'ailleurs été contrarié par les horribles événements du 7 octobre 2023, entraînant une délocalisation temporaire des prises de vue. C'est important, je pense, de voir un film qui tente de montrer une période de l'histoire méconnue d'une grande partie du public et passée sous silence aujourd'hui. C'est important parce que c'est aussi un moment de l'histoire qui a vu se jouer des événements qui vont profondément influencer le monde actuel pour avoir un impact mondial. On sent la volonté d'ancrer le film dans une histoire aussi tangible et réelle que celle qui a beaucoup plus été récupérée par le grand écran, avec un prologue constitué d'images d'archives en 4 tiers restaurées, issues des archives de la BBC, véritable note d'intention qui entend nous immerger dans un monde qui n'est certes plus, mais dont l'histoire continue de définir, comme on l'a dit, les enjeux contemporains. Alors ces images reviendront régulièrement dans le montage du film pour être sûr que le spectateur n'oublie pas qu'il est face à une romantisation totale du réel, et plusieurs dialogues peuvent être compris avec un double sens de lecture, le second étant bien évidemment extrêmement contemporain. Alors, nous ne sommes pas non plus devant un film à la viscéralité aussi implacable que celle de la bataille d'Alger, mais l'approche entre film historique et docu-fiction semble constituer la meilleure façon d'aborder le sujet, surtout aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il cherche à ouvrir ce chapitre de l'histoire au plus grand nombre. Et on y retrouve d'ailleurs, je pense, toute proportion gardée, quelques touches de ce qui fait justement à l'heure actuelle le fond d'un cinéma indien qui revient avec vigueur, colère et emphase sur les années de domination britannique, le cinéma de S.S. Rajamouli en tête. Alors voilà, Palestine 1936 tombe dans certains pièges de ce genre de film, il n'a pas toujours les épaules assez solides pour être véritablement la grande fresque qu'il aimerait être, mais le film réussit ce qu'il cherchait principalement à être, alors moins un film de guerre qu'un véritable projet de mémoire, et en ça, il faut aller le voir et en profiter sur grand écran.
Et vous pouvez aller le voir depuis le 14 janvier dans les salles en France. Fursi retrace le combat judiciaire d'un homme pour faire reconnaître sa liberté au 19e siècle. Nous parlons du dernier film d'Abdelmalek.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinérama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
Fursi, des libres, esclaves maintenus par la cupidité des hommes.
Quel fut le rôle de la France dans la traite et l'esclavage? Peu de films portent sur ce thème, probablement méconnu par une grande partie de la population. Et si on demande quand fut aboli l'esclavage en France, possible que les réponses soient bonnes à 50 ou 80 ans près. Et d'ailleurs, je vais faire le test tout de suite. Quand est-ce qu'a été aboli l'esclavage en France? Mes chers collègues!
Après Napoléon. Après Napoléon.
Alors, c'est presque ça. C'était avant Napoléon, c'est le 4 février 1794, donc après la Révolution française, qu'il y a eu une première abolition. Et puis, en 1802, Napoléon, ce visionnaire, hein, l'a rétabli dans les colonies pour arriver ensuite à une abolition totale en 1848. Donc, c'est quand même 15 ans après le Royaume-Uni. On dit souvent que la France est un pays éclairé, mais pas tant que ça. C'est dans ce contexte du rétablissement de l'esclavage que se déroule donc l'histoire de Fursi né libre, film d'Abdel Malik, adaptation du livre L'affaire de l'esclave Fursi de Mohamed Ayassaoui, qui raconte bien le dur combat judiciaire d'un homme vivant sur l'île Bourbon, donc ancienne Réunion, qui apprend que sa mère, une esclave déportée d'Inde, avait été émancipée par sa maîtresse. Cela signifiait que Fursi était lui-même libre. Mais ce qui semble a priori évident ne l'est pas pour le droit. On a souvent tort de penser que le droit et la justice, c'est une question de bac de philosophie.
Mais ce droit de circuler librement, fallait demander au procureur du roi. Silence.
Fursi devrait être libre, car sa mère a été affranchie il y a des années.
Cet acte d'affranchissement, même s'il existe, c'est qu'un bout de papier.
Le film est conçu en trois parties. Il y a l'exposition des faits. Un premier procès se déroule sur la petite île Bourbon. Fursi, interprété par Makita Samba, qu'on avait vu dans les Olympiades, ose réclamer sa liberté contre son maître, un riche planteur de canne à sucre, interprété subtilement par Vincent McCain dans une veine paternaliste et outrée. Il est aidé par un procureur abolitionniste, Romain Duris, mais ça ne passe pas. Fursi perd son procès et le voilà envoyé sur l'île Maurice pour faire un boulot d'esclave avec son lot de travail fatigant, la nourriture tout juste passable et les coups de fouet. Et donc c'est la deuxième partie. Et à la faveur d'un événement climatique, eh bien, l'esclave trouve un moyen de quitter la canne à sucre pour la sucrerie en produisant de la confiserie. Donc arrive la dernière partie où nous aurons la revanche judiciaire. Fursi retrouve le procureur devenu avocat, toujours acquis à la cause de l'abolitionnisme.
Fursi se retrouve dans la position d'accusé alors qu'il vient réclamer sa liberté.
Les esclaves n'attaquent jamais leur maître en justice.
Un esclave n'est pas une personne. C'est un meuble.
C'est toi, Fursi ? Ferme les yeux quand je te parle !
J'ai réussi à ce que son procès passe à la Cour royale de Paris. C'est moi qui le défendrai.
Je ne vous abandonnerai jamais, Fursi.
Le grand intérêt de Fursi né libre, au-delà de représenter la vie à cette époque pour les esclaves sur une colonie lointaine, est de nous plonger dans un combat judiciaire avec notre regard de 2025, bien sûr qu'on aurait libéré Fursi. Mais à l'époque, les hommes appliquent le code noir. Pour les colons, un esclave n'est pas un homme, mais un meuble. Et si le maître de Fursi explique qu'il a toujours bien traité son esclave, le considérant comme son fils, il n'empêche qu'il n'est pas libre de faire ce qui lui plaît. On le voit, Fursi ne veut pas de compromis, même si son maître est prêt à tout oublier. Pour lui, c'est une question de principe et une voie qu'il trace pour tous les autres esclaves. Les débats juridiques qui s'appuient sur les lois de l'époque ont de quoi surprendre, évidemment, mais moi je trouve ça toujours passionnant en fait. Ils sont par ailleurs toujours indispensables dans un monde où la liberté n'est pas toujours la première des valeurs.
Tout est organisé pour maintenir ce système en place.
Ils seront prêts à te pardonner si tu acceptes de retravailler pour eux.
Pardonner ? Après toutes ces années de souffrance, cette injustice ?
On a été esclave, on l'est toute sa vie.
Peut-on renoncer à sa liberté ? Peut-on abandonner cet attribut fondamental de l'être humain ?
Abdel Malik a tourné son film majoritairement sur l'île de la Réunion. Il offre une couleur vive et des images contrastées. Le jeu de Makita Samba interprétant Fursi est tout en retenue. Il montre autant l'aspiration à la liberté que la condition d'esclave. Il y a quelques flashbacks présentant la mère de Fursi dont on se demande la pertinence, tout comme la relation amoureuse qui lie Fursi à la préceptrice de ses anciens maîtres qui est escamotée. Alors peut-être fallait-il aussi se concentrer sur l'homme et son combat. À noter que les scènes de justice sont hyper intéressantes et plutôt bien construites. C'est absolument pas pesant, c'est très très intéressant. Voilà, donc c'est un film que je recommande au plus haut point. Fursi, né libre, est en salle depuis le 14 janvier. Animus Femina accompagne quatre femmes qui cherchent à retisser les liens entre humains, animaux et territoires. C'est l'interview de cette émission.
Il n'y aura aucune discussion à ce sujet.
This is Cinerama.
Vos paroles dépassent votre pensée.
Si l'on commençait par dire ce qu'Animus Femina n'est pas. Ce documentaire qui oriente sa caméra vers quatre femmes, entretenant des liens privilégiés avec la faune sauvage, n'est ni un film animalier au sens classique, ni tout à fait un simple portrait croisé. Animus Femina est avant tout un récit structuré en trois actes, tentative, chaos, espoir, une dramaturgie ternaire qui traverse autant les existences humaines que les mondes animaux qu'elle côtoie. Chacune des protagonistes porte son propre bestiaire, réel et sensible. Il y a Isis, peintre animalière, dont le travail pourrait se définir comme une nature vivante de la mort, une attention portée au corps, à leur inertie, à ce qu'ils disent encore du vivant lorsque le vivant s'est retiré. Sarah, chercheuse au CNRS en Antarctique, hein, au cœur d'un territoire où la science observe concrètement les effets des activités humaines. Francine, qui réinvestit un village abandonné en Asturie, hein, dans un dialogue fragile entre ruines humaines et faune sauvage. Et enfin Marie-Pierre, vétérinaire aux mille combats, confrontée quotidiennement au corps blessé, au sang, à la mort. Le film accompagne leur trajectoire sans jamais les enfermer dans des rôles assignés. Toutes traversent les tentatives du premier acte, basculent dans le chaos, puis esquissent des formes d'espoir lucide. La mise en scène est à l'image du propos, hein, les cadrages fragmentés et resserrés portés par le travail du chef opérateur hein, participent à un moment du film à la construction d'une mythologie filmique hein, narrée par la voix off d'Eliane de la Tour, une mythologie qui se fabrique dans la découpe des corps animaux, hein, puis qui évolue dans des plans fixes sur la mort, les blessures, le sang, et dans ce que la caméra choisit de regarder sans détour. En filigrane, la responsabilité humaine, omniprésente, et l'inertie politique hein, face à ce que l'anthropologie nomme la pression anthropique exercée sur les systèmes vivants et les déséquilibres que ça engendre. Et puis, bah, surtout, en filigrane, un appel à repenser notre regard et notre manière d'habiter le monde avec les autres êtres vivants. Animus Femina est actuellement en tournée, hein, accompagnée d'échanges avec la réalisatrice et des professionnels de l'écologie et de l'anthropologie, notamment à Paris, Toulouse, Montélimar et d'autres villes encore. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Film d'ici Méditerranée, donc c'est film au pluriel, filmdicimediterranee.fr/animusfemina. Et on écoute Eliane Delatour nous parler de son travail.
Quand je regarde cette vie, je me demande comment on pourrait maintenir ces liens qui sont constitués d'échanges, de flux, de plaisirs, d'émerveillement.
Avant, je travaillais plutôt sur les questions de réclusion sociale, avec cette question de pas pourquoi les gens s'en trouvent dans des situations d'exclusion, mais une fois qu'ils y sont, qu'ils sont dans des milieux fermés, comment ils redécouvrent, refont, réinventent des nouvelles relations sociales, des imaginaires, etc. Et donc j'ai travaillé en ce qu'on appelle en terrain multisitué, à chaque fois dans des lieux fermés, des prisons différentes, des harems, des ghettos, etc. C'était ça mon sujet. Quand il y a eu le Covid, j'ai eu comme ça une sorte de révélation, une espèce d'épiphanie qui est arrivée, où j'ai cru que tout le monde allait comprendre que si on baissait un peu la pression anthropique, en fait, c'était facile d'en voir tout de suite les résultats, puisqu'en si peu de temps, on voyait à nouveau les animaux réinvestir nos espaces. C'est dans ce contexte, avec ça en tête, que je suis allée dans les Cévennes où j'ai des attaches familiales. Et là, je suis tombée sur Isis Olivier, qui est dans mon film, la peintre animalière. Et tout a commencé comme ça. C'est pas un film sur les animaux, c'est pas un film sur les femmes, c'est un film sur le lien. Et tout le film est centré là-dessus. Et effectivement, c'est tous ces liens, tous ces côtoiements qui fabriquent le film. Et de manière multisituée, puisque c'est les gens qui amènent, Marie-Pierre qui répond, qui remet devant d'autres personnes en liberté, etc., etc. Donc c'est une circulation comme ça, Sarah pareil.
C'était un endroit tranquille depuis des siècles. C'est l'être humain qui a déséquilibré la rivière, qui l'a empoisonnée. Et j'ai pas hésité. J'ai donné l'alarme.
J'ai tout de suite voulu que ce soit un film politique, pas militant, mais politique. D'accord. Au sens où ce qui m'intéressait chez les quatre, c'est de les mettre immédiatement, dès la première écriture, j'avais ce récit ternaire avec tentative, chaos, espoir. Ouais. Et c'était important de les mettre dans un seul récit, toutes les quatre confrontées aux mêmes choses, pour ne pas avoir quatre portraits.
L'homme, il est issu du monde animal et on a perdu cette notion. Pourquoi notre liberté, elle serait supérieure à celle des autres espèces ?
Les animaux que je filme, ils ont ils ont toujours une place particulière. Les cadres que je fais, enfin, c'est plutôt, c'est pas moi qui fais les cadres, mais c'est une discussion avec le jeune chef opérateur que j'adore, là, qui s'appelle Lucien Roux, qui est très jeune et qui est extraordinairement doué. C'est lui qui a fait tous les animaux, les morts, les vivants, etc. C'est absolument lui. Et à chaque fois, on décidait de pourquoi on filmait cet animal, et pas l'animal pour l'animal.
On va ensemble recréer le milieu dans lequel les animaux, la nature et l'humain n'auraient jamais dû se déconnecter. Comment refaire communauté ?
J'aimerais beaucoup qu'on puisse avoir des immenses zones de réserve où on puisse laisser les animaux sauvages. Mais je sais très bien que s'il y a une zone de réserve où les animaux sont libres, ça veut dire qu'à côté, il y a une zone de surexploitation avec les animaux domestiques. Moi, je raisonne tout le temps en animaux et pas en domestiques et sauvages. Je suis très anti-frontières. Et si c'est ça, ça veut dire qu'il y a une pression du côté extrêmement violente avec l'agro-industrie qui permet aux humains d'avoir leurs animaux de ce côté-là, voilà, les prédations de ce côté-là, du côté domestique, et la pression est d'une violence incroyable, parce que j'ai appris il n'y a pas longtemps le chiffre des animaux terrestres qui étaient mangés par jour en France, c'est 3 millions par jour.
C'était l'anthropologue et réalisatrice Eliane Delatour pour son documentaire Animus Femina.
Deux frères qui ne se sont pas vus depuis longtemps sont confrontés à un choix impossible entre le pardon et la vengeance. Nous parlons de Sans Pitié.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Maria élève seule ses deux fils, Ryan et Dario, au cœur d'une fête foraine en Belgique où elle tient un stand de tir. Un jour, le plus jeune des fils, Dario, disparaît avant de réapparaître blessé, enfermé dans le silence. Alors nous, spectateurs, on a tout compris hein, de ce qui s'était passé. L'enfant est monté dans un van pour aller on ne sait où. 20 ans plus tard, après la mort de leur mère, les deux frères se retrouvent. Dario, qui avait quitté cet univers 10 ans auparavant, se voit forcé d'y revenir. Une rencontre faite alors remonter le passé, réveille le traumatisme originel et confronte chacun à un choix moral décisif. Le thriller peut enfin s'installer, mais cela aura pris un peu de temps.
Je t'ai attendu. Ça tapait dans le sol comme des bruits de marteau. C'est comme si le sol s'était ouvert sous mes pieds.
Avec Sans Pitié, Julien Osmalin nous immerge dans le monde peu connu des forains, mais il ne s'agit que d'une couverture, hein, disons-le honnêtement. Il n'y a pas vraiment de personnages qui existent au sein de cette communauté et l'objet du film n'est pas la chronique sociale. Le réalisateur français a une autre ambition, nous emmener dans un vigilante movie, soit un film où il s'agit pour un personnage blessé de se faire justice soi-même. Le nœud de l'intrigue, c'est que les motivations du justicier restent nébuleuses pour son entourage et surtout son grand frère qui n'a pas mesuré ce que son cadet avait vécu quand il était plus jeune. Mais nous, spectateurs, donc, eh bien, on est à la meilleure place car on a tous les éléments pour comprendre les motivations du justicier à qui il va s'attaquer et les conséquences que cela pourrait avoir. Alors c'est peut-être l'un des défauts du film de nous en révéler autant sur l'intrigue en laissant une part d'ombre aux relations qui unissent les différents personnages. Il n'y a pas véritablement de surprise et on est là à subir la violence, ce qui est certes le ressort du Vigilante Movie.
C'est qui ? C'est le frère de Ryan. 10 ans sans nouvelles, c'est long. Tu restes un peu dans le coin.
Je peux te poser une question ? J'ai jamais compris pourquoi c'est toi qui l'as choisi.
Qu'est-ce que tu cherches ? Maman, elle est morte ! Tu vas me ramener le malheur ici !
Avec Sans Pitié, Julien Osmalin, dont c'est le premier film, tente de proposer une œuvre marquée visuellement. Il y a d'abord l'image avec une tonalité jaune, alors que c'est tourné en Belgique. Avec cette belle image, cet esthétisme de la violence, on le sent amoureux du cinéma américain. Travaillé par le western, il y a peu de personnages, des figures de méchants, des codes et des règlements de compte, mais le sujet profondément premier degré, les regards caméra un peu gênants et les ressorts dramatiques pas forcément heureux gâchent un peu le plaisir. Alors on en finit à se demander à quoi bon tout ça. La seule question posée par le film n'est pas tant peut-on se faire justice soi-même, mais en tant que frère, puis-je être solidaire de cette violence ? En tout cas, Sans Pitié est à voir depuis le 14 janvier dans les salles de cinéma. City on Fire suit un flic infiltré dans un gang de Hong Kong après un assassinat. Bien, nous parlons d'un film qui ressort sur les écrans.
C'est un état d'esprit.
Cinérama. Chronique. Invité et nouvelle du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Après deux chefs-d'œuvre de John Woo, hein, Toute épreuve et The Killer, et le génial Histoire de fantômes chinois, Metropolitan Film Export et HK Video ramènent un nom moins connu hein, du polar pour le grand public, mais tout aussi important. Ringo Lam fut moins médiatisé que Woo, Tsui-Hark ou encore Junito, mais a lui aussi connu une carrière brillante et a même su, hein, comme les deux autres cinéastes précités, avoir sa période américaine en signant, comme ses compatriotes, exportés parmi les meilleurs films de Jean-Claude Van Damme des années 90. Ce qui nous intéresse aujourd'hui est son mythique City on Fire, datant de 87.
John est transféré chez nous à ma demande, mais vous vous êtes déjà rencontrés.
Ça ne me dit rien du tout.
Monsieur, mon vieux,
appelez-moi l'eau.
Bon, si ça vous chante d'ailleurs, vu votre âge, je vous dois le respect. L'eau. J'ai demandé à John de monter un groupe spécial pour vous aider. Je suis certain de pouvoir vous régler vos affaires criminelles.
À la suite de l'assassinat en plein quartier populaire de Hong Kong, l'inspecteur Lo charge un de ses meilleurs hommes d'infiltrer un gang de dangereux malfaiteurs. Alors Ko Cho devient ainsi une taupe, suspecté par les braqueurs et poursuivi par la police qui ignore tout de sa véritable identité. Après un hold-up particulièrement sanglant, Cho se lie d'amitié avec son chef de bande, l'implacable mais loyal Li Fu. Alors ces personnages, tous perdus dans des enjeux d'intérêt qui finissent par les dépasser, vont se révéler n'être que des rouages dans une machine plus grande qu'eux, dont ils sont à l'origine de son dérèglement, mais dont ils seront incapables de stopper. Alors, le plus paumé de ces pions est celui incarné par un Chow Yun-fat, qui retrouve dans ce flic infiltré tiraillé par ses principes, son boulot et sa petite amie capricieuse. Il retrouve un terrain de jeu idéal dans cette tragédie moderne. Alors, tout aussi sérieux que dans le syndicat du crime, mais déglamorisé au possible, il révèle au monde entier toute l'étendue de sa palette d'acteurs, en plus de son incroyable magnétisme qui fait instantanément comprendre pourquoi il est devenu le Alain de long attitré de John Woo.
Vous deviez coopérer, pas vous battre comme des voyous. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben voilà, j'ai pu enfin arrêter ce show. Je le crois appliqué dans l'affaire Wing Hong et aussi dans un trafic d'armes. Je l'interrogeais quand Lo s'en est mêlé.
Lo, vous faites de l'obstruction?
Ko Cho est mon agent.
Et alors? C'est pour ça qu'il se croit permis de vendre des armes, peut-être?
C'est grotesque! C'est moi qui ai fourni les armes au braqueur.
Pourquoi?
Vous êtes malade!
Fais attention à ce que tu dis, toi, hein!
L'eau! J'attends vos explications.
Lorsqu'on s'arrête sur le déroulé de l'histoire, on pourrait se dire que celui qui y trouverait tant son compte, qu'il pourrait se réapproprier certains codes, est Michael Mann. Il y a beaucoup de ponts avec ses héros et ses situations de Heat ou Miami Vice, et cette frontière ténue entre infiltration et trahison. Mais l'autre cinéphile avisé qui ne va pas oublier sa VHS alors qu'il travaillait dans un vidéoclub en prenant des notes, est rien de moins que Quentin Tarantino, qui avouera plus tard avoir repris plusieurs séquences importantes du film de Ringo Lam pour Reservoir Dogs, soit le film qui va changer l'aspect du cinéma américain indépendant des années 90 et lui acheter une carrière culte instantanée. Et on ne parle pas de petits emprunts, puisqu'il recyclait entre autres le célébrissime Mexican Standoff de fin, point d'orgue d'une montée en tension tragique et électrique qui saura mettre à mal tous les protagonistes. City on Fire fut l'une des premières des nombreuses œuvres hongkongaises de cette glorieuse décennie à inspirer le cinéma mondial et en particulier américain jusqu'au remake officiel de Infernal Affairs par Martin Scorsese avec son Les Infiltrés. Alors les Français peuvent désormais enfin voir tout ce qu'on lui doit après une obscure VHS qu'on va tous jeter devant la nouvelle restauration 4K. Car oui, c'est la première fois qu'on va pouvoir le voir sur grand écran.
City on Fire, donc dans les salles françaises, quelques salles. Une femme borderline tente de tout faire pour prouver à ses enfants qu'elle est quelqu'un de bien. Nous parlons des courageux.
Bah oui, c'est le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Même quand on triche, il n'est pas facile de gagner. Telle est la maxime que retient une mère de famille qui élève seule ses trois enfants dans le film Les Courageux, une adolescente et deux garçons plus jeunes, dont un Asperger. Nous sommes dans les montagnes en Suisse, mais cela a peu d'importance. Les problèmes d'argent, Jules les aurait n'importe où. Si l'on sent la mère de famille souvent inquiète, on ne saura rien de ce qui la transforme ainsi, jusqu'au détour d'un événement agréable, perturbé par un élément désagréable en contre-champ. Ce que donne voir ce premier long métrage de Jasmine Gordon, c'est comment une mère doit sans cesse se trouver les moyens de rendre la vie moins laide pour ses enfants, des ressources qu'il faut aller chercher en soi pour donner le change quand on ne possède rien.
Elle vous abandonne souvent, votre maman?
Maman, on doit aller à l'école.
Non, ce matin on reste ensemble.
On va devoir encore partir.
Venez, on s'en va. Allez, on s'en va.
Mais je croyais qu'on avait le droit.
Ouais, allez.
Jules n'a rien d'une mère modèle, on s'en aperçoit très vite car elle se fait reprendre par ses enfants quand elle chippe des fruits dans un arbre. On n'a pas le droit de faire ça, lui dit son fils. Non, et alors pour la mère, il est évident que si elle se conforme au bon droit, il n'y a plus rien de viable. C'est pourquoi on la voit user de quelques stratagèmes peu recommandables, voire très contestables, pour donner l'illusion d'une vie meilleure à ses enfants en achetant par exemple une petite maison où certes il y a des termites, mais l'essentiel c'est un toit et être ensemble. Durant tout ce long métrage, il n'est pas question pour la réalisatrice suisse de donner une vision morale. Elle accompagne son personnage personnage principal, comme les enfants, la petite famille qui s'accroche à l'avenir forcément plus radieux. Il y a quelque chose d'un peu désespéré dans les agissements de cette mère qui fatalement doit lutter contre une société qui donne davantage à ceux qui ont de l'argent plutôt qu'à ceux qui en réclament. C'est un film juste, sans trop de naturalisme, sans gras, 1h20, qui nous présente une mère apparaissant en premier abord irresponsable, faisant fi des règles pour ensuite nous dévoiler sa sensibilité et son présent rongé par le passé. Les Courageux est un petit film dans quelques salles en France.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir. De vous revoir. De vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier. Le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine. Tu auras vu le dernier film d'Assayas ?
Oui, Le Mage du Kremlin.
Et toi, tu auras deux films, Guillaume ?
Trois même. J'aurai Olivia, un film d'animation, The Rip, un polar musclé, et Der Tank, un film de guerre.
Et moi, je vous parlerai d'Amour Apocalypse et nous écouterons la réalisatrice québécoise. À la semaine prochaine.